Réplique, le poète et le peintre avec Jacques Roubaud et Jean-Paul Marqueschi. Jean-Paul Marqueschi est le peintre. Depuis 1984, il a délaissé le pinceau pour composer à l'aide de flambeaux. Le feu est désormais son pinceau. La brûlure de la flamme, le noir de la fumée, la cendre et la cire ont remplacé la peinture avec pour support privilégié des feuillets couverts d'écritures jaillies au sortir de la nuit entre le rêve et le jour. Ce peintre expose aujourd'hui certaines de ses œuvres, toiles et sculptures, au musée départemental de la préhistoire de Nemours et dans le parc forestier qui y conduit. Ainsi, l'art le plus contemporain voisine-t-il avec les plus anciens témoignages de l'homme. François Saint-Genet, le responsable du musée, a demandé à Marqueschi à qui il aimerait confier le texte du catalogue de cette singulière et vertigineuse mise en relation. Marqueschi a répondu qu'il souhaitait que le texte soit une œuvre et non une simple présentation, et sans trop y croire, il a donné le nom du poète Jacques Roubaud, dont il connaissait l'intérêt pour les nuages de Constable et pour les installations de Boltanski. Or, il se trouve que le poète a accepté l'invitation du peintre et qu'il a écrit une œuvre, en effet, Les Fastes du Daimon. La rencontre a donc eu lieu et je voudrais, pour commencer, demander à Jacques Roubaud quel sens elle revêt pour lui.
J'ai accepté avec beaucoup d'hésitation au début, non pas parce que l'œuvre ne me paraissait pas devoir attirer mon attention, c'est le contraire, je la connais depuis longtemps et je l'admire infiniment, mais je n'étais pas sûr de trouver la manière de faire. C'est très important, comme il ne s'agissait pas de faire un commentaire sur l'œuvre de Jean-Paul Marqueschi, et je voulais donc composer quelque chose. Et composer quelque chose, pour moi, c'est trouver la forme dans laquelle j'allais faire le travail. Et ça m'a pris assez longtemps. Il a fallu que j'aille dans l'atelier, que je voie le travail, que je voie tout ce que j'ai pu voir de catalogue, de réponses à des questions, tout ça. Et puis, il y a eu l'illumination qui m'a conduit vers la forme.
Et cette forme, c'est quoi ?
L'illumination, c'est cette figure que j'ai vue si importante dans l'œuvre de Jean-Paul Marqueschi, qui était le pharaon noir. Ce pharaon noir m'a beaucoup impressionné. Et du coup, le déclic s'est fait parce qu'il se trouve qu'en tant que poète, j'ai travaillé depuis quelque temps sur des formes voisines, sur des formes dans lesquelles ce nom-là existe, s'entend, quoique modifié. C'est la forme que j'ai appelée pharaoïne. Donc, c'est pas le pharaon. Ça contient quelque chose du pharaon, mais ça contient aussi quelque chose de son origine, qui est une origine très curieuse. C'est un jeu de cartes. Un jeu. Et le jeu de pharaon. Et le jeu de pharaon a donné naissance à des tours de cartes, donc il y a la magie. Mais bien entendu, ça a donné aussi naissance à des tricheurs et à des détectives qui cherchent à déterminer les tricheurs. Et dans les 20 ou 30 dernières années, une incroyable prolifération de travaux d'inspiration mathématique s'est fait sur ce jeu, sur cette forme. Et bien entendu, ça m'est apparu tout à fait adéquat. Pour une autre raison, c'est tout à fait évident, quand j'ai vu le travail de Jean-Paul Marqueschi, Jean-Paul Marqueschi au travail, j'ai vu quel genre de personnage c'était.
Alors, dites-le, décrivez-le.
Un daimon.
C'est-à-dire
le daimon des pythagoriciens, ce personnage qui est entre la terre et le ciel, qui peut avoir des influences bénéfiques, mais aussi des influences maléfiques, et qui travaille dans quelque chose qui est une véritable magie. Donc, tout cela concourait à me donner le sentiment de la forme.
Alors, nous reviendrons à cette forme. Mais d'abord, Jean-Paul Marqueski, deux questions. Éclairez-nous, si je puis dire, sur le pharaon noir, puisqu'on en a parlé. Qu'est-ce que c'est dans votre œuvre, le pharaon noir? Et puis ensuite, aidez-nous à rendre sensible, justement, l'exposition. Présentez-nous cette exposition que vous avez appelée, en référence à Ovid, au poème d'Ovid sur le calendrier religieux romain, les fastes. Le pharaon noir, d'abord.
Alors, le pharaon noir est le titre d'une de mes expositions, enfin les plus importantes, en tout cas en nombre de salles et en format, et qui s'est tenue en 2001 à Toulon, dans un lieu très beau qui est le centre méditerranéen d'art, l'Hôtel des Arts. C'est une exposition d'ailleurs où le nom, ce qui est extrêmement rare chez moi, vraiment, il s'agit d'une exposition qui est tombée du nom, véritablement. Et ce mot de pharaon noir, en fait, vient d'une note de note dans une biographie consacrée à Lorca, poète que j'admire, et où qu'il était raconté à propos du festival de Cante Rondo organisé par Manuel de Falla et Lorca à Grenade en 1922. Donc, le premier soir de ce festival qui consistait au fond à récolter toute une matière sonore prestigieuse et splendide, qui n'était rien moins que la Bible des Gitans, n'est-ce pas ? Qui n'a pas d'autre expression, donc, n'a pas d'autre livre, enfin, n'a pas d'autre moyen de récolter, enfin, de résumer sa mémoire que ce chant profond. Et donc, à la suite de la première journée, Manuel Thor, qui est un génial cantaor, est convié avec les autres musiciens dans le Carmen, qui est une ferme au large, aux alentours de Grenade, dans la ferme de Manuel de Falla, et qui, dans la nuit, pendant la nuit d'été, la nuit d'Espagne, interprète précisément sa fameuse nuit dans un jardin d'Espagne, dans une version pour piano. Donc ce cantaor entend cette musique dite savante, enfin, dont il n'avait pas une grande idée jusque-là. Il s'avance vers Falla et lui dit « Ah, ce soir, maître, vous avez eu le duende. » Et Falla, le duende, qu'est-ce que c'est le duende ? Et Manuel Thor répond « Le duende, c'est faire remonter dans la voix le buste du pharaon noir. » Donc, et lui, il dit le « tronco », n'est-ce pas ? Et c'est une phrase extrêmement mystérieuse, oui. Très belle, dont cette remontée de l'Égypte dans la voix, enfin comment tirer à l'intérieur de la voix ce tronco venu de la nuit d'Égypte, ça m'avait ébloui. Et de ça est née cette exposition auquel vous faisiez allusion, que j'ai intitulée « Le pharaon noir ».
Et y a-t-il un lien entre cette exposition et celle que vous présentez au musée de la préhistoire de Nemours? Faites-vous aussi remonter quelque chose, si je puis dire, dans l'exposition de Nemours?
Alors, l'un des titres, il y a un lien, car j'ai le sentiment de ne jamais avoir peint qu'un seul livre ou tableau, tellement les passages d'une exposition à l'autre, d'un objet à l'autre, chez moi, sont essentiels. Donc, oui, c'est la même chose, et j'espère un peu, quelque peu, différente. Le premier titre, j'ai longtemps hésité, j'avais composé des listes de titres possibles pour cette exposition, parmi lesquels Les Fastes, qui était un poème d'Ovide que j'aimais énormément, et poème inachevé, enfin, ou en tout cas dont on a retrouvé seulement les six premiers chapitres. C'est un poème qui est structuré par mois, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un calendrier, mais extraordinairement poétique et extraordinairement libre, qui est aussi une sorte de condensation de la mémoire de tous les rites liturgiques, tous les noms, liés d'ailleurs à la désignation du ciel. Le ciel tient une très grande place. Donc on apprend, justement, enfin, là, au fond, la genèse, l'origine de tous les mots qui qualifient les planètes. Voilà. Mais le sous-titre, je dirais, sous ce titre, il y a d'autres titres. Et peut-être que c'est même le principal. Donc, j'avais d'ailleurs songé à appeler cette exposition La Disparition. Mmh. Voilà. Il y a, en effet, il y a de l'ombre dans mes fastes.
Et puis il y a, le visiteur est saisi d'entrée de jeu, une confrontation double, dont j'aimerais que nous parlions tous les trois. Confrontation avec la nature, puisque je l'ai dit, c'est dans le sous-bois, dans le parc forestier, que l'exposition commence par des sculptures, et notamment celle qui est tout à fait saisissante, impressionnante. Hein. La première chose qu'on voit, que vous appelez le festin, ce sont des corbeaux coulés dans le bronze, si je me souviens bien, autour d'un lac. Un lac, une eau noire, et puis on voit ces oiseaux, confrontation avec la nature, poursuivie par une autre confrontation, non plus simplement avec la tradition picturale, mais avec la préhistoire elle-même, parce que vous avez des salles d'exposition pour vous, mais certaines de vos œuvres, toiles ou sculptures, en bronze ou en cire, sont présentes à côté des objets, de ces grands vestiges, pirogues ou ustensiles, de l'origine de l'humanité. Donc, c'est là qu'il y a, je ne sais pas si c'est le pharaon noir, mais nous remontons à l'origine. Alors, quel sens faut-il donner, quel sens donnez-vous, vous d'abord, Jacques Roubaud, à cette double confrontation ?
Une des premières choses, peut-être la deuxième que j'ai faite, ça a été d'aller voir le lieu. On prend le train jusqu'à la gare de Lyon, jusqu'à la gare de Nemours. Ensuite, on marche trois quarts d'heure. On arrive dans cet endroit tout à fait extraordinaire, dont l'architecture est remarquable, puisque, bien entendu, la forêt pénètre par les vitres. Et il y a tous ces représentants de préhistoire qui sont là. Et donc, tout de suite, j'ai senti que c'était vraiment un très bon choix. Un très bon choix. Parce que l'œuvre de Jean-Paul Marcheschi allait trouver là des interlocuteurs silencieux qui viennent de la préhistoire. Alors, lui-même est bien antérieur à cette préhistoire. Il vient de beaucoup plus loin. Et donc, le fait de se mettre là, d'y mettre ces animaux parmi les autres, ça m'a paru tout à fait réussi. Et après, j'ai même pensé à la fin, au moment du vernissage, j'ai même pensé que c'était en fait le musée, les objets et les personnages du musée qui se faisaient accueillir par Jean-Paul Marcheschi dans ce lieu, puisque lui, il est leur ancêtre.
Il est leur ancêtre, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Il est leur ancêtre, son travail vient de très 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 loin, d'extrêmement loin, et... Il vient de la... C'est un peu comme le travail de la terre et le travail du temps qui travaillent sur les quatre éléments. Et lui-même investit les quatre éléments.
Oui, alors je rappelle simplement que le musée est l'œuvre de l'architecte Roland Simonet et qu'il est le seul édifice de Seine-et-Marne à détenir le label patrimoine du XXe siècle. C'est en effet un lieu tout à fait extraordinaire. Alors, notre ancêtre à tous, Jean-Paul Marcheschi, c'est vrai, vous travaillez avec tous les éléments. Il y en a deux qu'on est surpris de voir ensemble, le feu et l'eau. Et l'eau est très présente. J'ai dit qu'il y a cette première œuvre, le lac, le festin, mais c'est des corbeaux autour d'un lac. Alors, que penser de ce mariage en vous, et notamment dans ce musée-là de la préhistoire, de l'eau et du feu ?
La plupart des figures sont nées, bien sûr, de la rencontre de ce lieu. Quand j'ai découvert ce lieu, je n'avais aucune idée de ce que j'allais y rencontrer. Et donc, ce qui est nouveau, en tout cas dans ma petite expérience personnelle de peintre, allant dans des lieux extrêmement étranges, enfin sillonnant des lieux perdus, très excentrés, enfin, je n'avais jamais rencontré un lieu doté d'une forêt si belle. Et l'autre qualité de ce lieu, c'est que le dehors entre violemment dans les salles même. C'est une architecture de Roland Simounet qui est vraiment magnifique, un élève du Corbusier, qui a donc quelque chose de cubiste. Enfin, on voit le Corbusier étant une espèce de conséquence du cubisme, et d'une façon indirecte, au fond, de l'espace cézannien auquel je suis tellement attaché, et puis encore porté par l'énigme inventée par Cézanne. Donc on a un espace qui est traversé de lumière, qui est traversé de nature, c'est-à-dire dans les salles, y compris dans les miennes, dans lesquelles, donc, en effet, j'envahis la totalité des salles. Enfin, et en retour, il y a une double immersion. Et en retour, Francis Saint-Genet a eu le courage et l'extraordinaire générosité de me laisser emprunter des œuvres dont certaines comptent parmi, je crois, les plus précieuses du musée, notamment ce crâne de Trépané, qui est un crâne du néolithique, qui est un des crânes les plus anciens du musée, et que j'ai transporté dans une des plus grandes salles d'exposition, dans laquelle j'ai réuni toutes mes œuvres claires. Et donc, c'est la salle des morsures et des oracles. Et en retour...
Les morsures de l'aube, c'est ça.
Et des morsures de l'aube. Voilà, les morsures de l'aube et les oracles. Et en retour, j'ai en effet disséminé à l'intérieur du musée, notamment un petit sanglier auquel je suis très attaché, qui d'ailleurs, là, nous relie à nouveau au pharaon noir, ce couple royal, enfin, tiré du tronc, enfin, des entrailles de ce pharaon des Cantaires andalous. Donc, de ce couple, donc, de ce pharaon, je l'ai évidemment doté d'une reine, donc, union de laquelle est née, précisément, progéniture du couple royal, le petit sanglier que j'ai appelé Raoul, ou Raoul, hein, en égyptisant ou en frappant le mot d'un tréma. Donc, mon sanglier, en effet, je vois ce que dit Jacques Roubaud, enfin, quand vous le confrontez avec le sanglier du musée, qui est d'ailleurs un sanglier gallo-romain, qui est absolument magnifique, extraordinairement stylisé, très riche, eh bien, on les a donc fait se rencontrer. Et en effet, mon sanglier a l'air bien plus ancien que le sanglier gallo-romain.
Alors, nous reviendrons à l'eau tout à l'heure, parce que je n'ai pas oublié cette question, mais je voudrais lire un passage de votre œuvre, de votre poème, Jacques Roubaud, où, me semble-t-il, se donne à comprendre le mieux la convergence entre vous. C'est le chapitre intitulé « L'art du daimon ». Et vous dites « L'art dont je rêve, nous dit le daimon », donc Marqueschi, « rendre compte de toute l'ampleur du corps, le corps secoué par la mémoire, hein, hanté, écrasé de la nuit, c'est cela, c'est bien cela, et pas de pensée sinon par retrait, mon art est plus de contrainte que de hasard, la contrainte est loi du plaisir ». Il me semble que cela vaut pour vous deux. Alors, est-ce que vous pouvez commenter ces vers, Jacques Roubaud ?
J'ai été très rapidement sensible quand je me suis plongé de plus profondément dans tous les documents que je pouvais avoir sur le travail de Jean-Paul Marqueschi, en le voyant lui-même travailler et en essayant de saisir comment il s'emparait ainsi des éléments. Sur cette présence tout à fait constante et très rigoureuse de ses contraintes. Il s'est donné ses contraintes et elles durent depuis très longtemps et il les suit avec une extraordinaire énergie et fidélité. Alors bien entendu, moi je suis quelqu'un qui travaille poétiquement par la contrainte. Il était donc clair que j'allais être à l'aise pour répondre à la demande qui m'était faite dans quelque chose qui serait une forme née d'une contrainte très la plus difficile possible. En fait, je crois que pratiquement jamais travaillé sur une forme aussi difficile.
Qu'est-ce qu'elle avait de particulièrement difficile, la forme
que particulièrement difficile, c'est que, comme un certain nombre de ses cousines, qui viennent de très loin, qui viennent des troubadours, hein, de la Sexine d'Arnaud Daniel, qui a été ensuite utilisée par Raymond Queneau, il est nécessaire d'avoir une répétition qui bouge d'un certain nombre de mots-clés qui se situent à la fin des vers. Il donne la tonalité de chacun des poèmes. Et ce qui est très important, c'est que de strophe en strophe, toujours le même nombre de strophes, il tourne toujours de la même manière. Et ça, la forme de la pharaoïne, elle n'est pas la même que les autres, que ses cousines, mais elle a cette propriété. Mais j'ai décidé de faire plus que ça. C'est-à-dire que les longueurs des vers, elles-mêmes, tournent. Elles sont inégales dans la plupart des poèmes, elles tournent. Et en plus, loin de faire seulement un exemple de cette pharaoïne, j'en ai fait 36. Alors, chaque pharaoïne a 6 strophes, et ça fait 36 vers, et moi j'en ai fait 36. Donc je me suis imposé quelque chose qui est assez, assez rude, mais dont je me suis dit assez vite, quand j'ai décidé ça, que je ne pouvais pas faire moins que tenter cette chose à cause de l'extraordinaire quantité de force et de contraintes que l'artiste présentait.
Alors, force et contraintes, quelles sont vos contraintes, Jean-Paul Marquessy ? Répondez justement sur ce
sujet. Elles sont vraiment innombrables, d'autant que je ne cesse de les augmenter. Bah, d'abord, il faut rappeler tout de même qu'il ne va pas tout à fait de soi de faire usage du feu en tant que pinceau. Il y a quelque chose qui doit y avoir moi-même. M'a surpris. Je pensais. J'ai fait un usage du feu très circonstancié au moment d'un voyage en Méditerranée, sur un volcan magnifique, et à un simple usage, je dirais, réaliste, enfin analogique, pour mieux faire sentir l'irruption de la flamme, du volcan. J'avais simplement, en effet, utilisé un flambeau. Et puis, il y a eu une sorte de chose qui m'a pris, vraiment, qui m'a pris par la vue et par la. Je dirais par ce qui, je crois, me qualifie, c'est-à-dire par ce qui m'a séduit, c'est sa incroyable plasticité. Mais n'oublions pas que le feu est tout de même un élément négatif, enfin qui a aussi, si on le laisse faire, le feu va au détruire. Hein, il va directement au désastre. Donc c'est un feu qui est déjà une contrainte pour un peintre. Donc ça fait une contrainte d'ailleurs incessante. J'ai la moindre distraction et puis tout brûle. Donc, de plus, moi, comme contraint, je m'étais fixé pour certaines œuvres, et c'est le cas, par exemple, à Nemours, pour certaines œuvres, notamment cette œuvre que j'ai installée dans l'auditorium, et qui est d'ailleurs une sorte d'installation visuelle et sonore dans laquelle j'improvise d'ailleurs, les premiers effets de langage en moi, liés au faste. Et donc, ça, c'est une des contraintes. L'autre contrainte étant que tout vient du livre, c'est-à-dire que son regard, c'est des feuillets mis bout à bout, qu'on reconnaît, qui sont un peu une espèce de signe de ma peinture. Et donc, ce qui fait une subdivision incessante aussi de l'image. Ensuite, il y a le rituel des écritures. Il y a les écritures qui sont déposées chaque matin et qui viennent aussi retarder, ou en tout cas, quelquefois, compromettre le visible. Hein, on a du lisible projeté dans du visible.
Oui, alors. Justement, vous parlez de cet auditorium, et là, en effet, on vous entend. Il y a un enregistrement de vous où vous abordez un thème tout à fait paradoxal pour un peintre, mais là encore, j'aimerais avoir votre réflexion à l'un et à l'autre, car vous y déployez ce qu'il faut bien appeler une critique de l'image. Alors, il y a l'image picturale, il y a l'image poétique, mais vous prononcez contre une certaine sidération pour l'image, contre une image réifiante, et cette condamnation d'un certain type d'image m'a rappelé un texte de Lévinas, La réalité et son ombre, où, inspiré en quelque sorte par l'interdit de la représentation, Lévinas écrit par exemple « La caricature insurmontable de l'image la plus parfaite se manifeste dans sa stupidité d'idole. Toute image est idole, toute œuvre d'art est en fin de compte statue, il ajoute même, toute image est déjà caricature. » Et le problème de ce devenir caricature de l'image, vous l'abordez dans cette réflexion que l'on peut suivre si l'on va à l'auditorium. Et comment faites-vous, par vos images pour résister, si vous voulez, à cette image négative, à cette image sidérante.
En effet, il y a une image, il y a une image. Et même le mot, je le garde, bien que ce soit discutable. On pourrait, par exemple, dire qu'il y a une image peinte et puis une autre image. Enfin, et on pourrait donc distinguer l'image peinte des autres images. Je ne vais pas aller jusqu'à la haine de la photographie telle que Baudelaire l'exprime, dans sa guerre aussi, de la mauvaise image. Je pense en effet qu'il y a une image négative et que ça ne désigne pas seulement l'image publicitaire, par exemple, telle qu'elle nous envahit. Je crois qu'il y a une... Ça court les musées. Enfin, il y a une quantité d'œuvres mortes, enfin, pour moi, qui sont dans l'image négative et qui sont une image... C'est tout simplement de la mauvaise peinture. Ou alors, il faudrait établir des degrés dans cette mauvaise peinture. Et qui, en effet, peut-être, le texte de Lévinas auquel vous faites allusion m'avait beaucoup frappé, enfin, l'arrêté et son ombre. Je trouve que le texte est très profond. Il reprend, bien entendu, d'ailleurs, il lui-même y arrive... Ce débat très mystérieux et ancien, donc qui est au cœur du judaïsme, n'est-ce pas, entre eux, la bonne image, enfin, et la condamnation idolâtre des images.
Oui, mais simplement, comment, je m'excuse d'insister sur ce point, vous dites, une mauvaise image, c'est une image réifiante. Comment, dans l'art, peut-on résister à la réification? L'art n'est-il pas en lui-même réification? Et quels sont les antidotes ou les anticorps à la réification que l'on peut trouver dans votre propre, dans vos propres œuvres?
Je regrette beaucoup de ne pas avoir pu présenter à Lévinas, dont j'ai, pour qui j'ai une grande admiration, précisément, voilà une réponse tangible dans mon exposition de Nemours, mais aussi dans l'autre exposition que je viens d'ouvrir dans un endroit splendide, enfin en Haute-Marne, le château du Grand Jardin, dans lequel il y a un lac. Et j'y réponds notamment
voilà l'eau.
En faisant intervenir justement l'eau réelle. C'est-à-dire qu'à l'image de l'eau, je préfère l'eau. Et là, on retrouve, il y a des expressions de Lévinas absolument magnifiques, en effet, où ce qui est peut-être le deuil de l'art, c'est précisément, en effet, de laisser le réel et d'en conserver que l'ombre. L'ombre, l'art, l'écrit, peut-être pas la musique. C'est-à-dire, donc, à travers, mais il y aurait d'autres éléments contre-réificateurs chez moi.
Par exemple.
Que je pourrais dénombrer. Par exemple, l'irruption violente du bordel des écritures. Car chez moi, alors justement, les écritures n'ont rien de littéraire, où il y a de tout. C'est-à-dire que je ne crois pas à cette espèce de mystique du peintre dans le silence, enfin, ou de la peinture envoyée au silence ou à l'aphasie. Je n'y crois pas. Je pense que tout être humain, dès qu'il naît, est assailli par la folie des langages. On est atteint. Voilà, on est, et donc c'est une façon, dans mon cas, d'abord de m'en débarrasser, donc ça agit comme une purgation, enfin. Mais aussi, je pense que ça introduit dans de la contre-image, précisément.
Et il y a aussi le fait que les images, certains sculptures ou toiles, sont changeantes suivant l'éclairage. Il y a une sorte de fluidité introduite dans l'image.
Exactement,
dont j'aimerais que vous
parliez. Exactement. Oui, d'ailleurs, qui reprend non seulement, c'est très juste, puisque j'allais l'oublier, ce qui est en effet un élément actif, qui là, c'est lié à des techniques très sophistiquées. Il se trouve que quelques-uns des lacs de Nemours et celui du château du Grand Jardin à Joinville, donc sont soumis généralement, en tout cas l'œuvre de Joinville devait l'être, et à une lumière évolutive. Autrement dit, on a organisé des parcours aléatoires, qui sont à la fois donc, des hasards, des coups de dés contrôlés, mais en même temps avérés, qui font que jamais l'image que l'on voit ne s'arrête. Elle bouge comme le ciel. Sans cesse, elle bouge. Donc là, on répond aux hantises de Lévinas, puisque il dit ce qui est perdu, c'est précisément l'ouvert.
Oui, il y a cette phrase très belle. L'être n'est pas seulement lui-même, il s'échappe. Ça, c'est dans La réalité son ombre de 1948. Ensuite, il y a toute la grande méditation de Lévinas sur le visage, la manière dont se présente l'autre, dépassant l'idée de l'autre en moi, nous l'appelons visage. Le visage d'autrui détruit à tout moment et déborde l'image plastique qu'il me laisse. Et c'est comme si dans l'art, vous essayez d'une certaine manière de faire exister ce débordement. justement cette transcendance. Mais alors justement, Jacques Roubaud, vous, vous êtes poète, l'image est au cœur de votre réflexion. Est-ce que vous êtes sensible aussi, en tant que poète, à ce problème de l'image réifiante ?
Oui. Et là, j'aurais tendance à le... J'y réfléchis en partie à partir d'une distinction que fait Wittgenstein et que je m'approprie sans aucune responsabilité. Je ne suis pas philosophe, donc je ne peux pas dire que c'est vraiment ça, vraiment pas à ça que ça correspond, je ne sais pas. Mais il fait une distinction entre précisément deux types d'images. Et le build et abuild. Et dans... L'une est immobile, elle est figée, c'est celle-là qu'il ne faut pas, c'est celle-là qu'il faut éviter. Et une est en mouvement. Et le travail de Jean-Paul Marcheschi consiste précisément à mettre constamment, par certains des procédés, il y en a beaucoup d'autres dans son œuvre, certains des procédés qui permettent de ne jamais figer, qu'elle ne reste pas oisive. C'est un mot que Wittgenstein emploie et que je trouve tout à fait caractéristique du travail de Jean-Paul Marcheschi.
Alors là maintenant, j'ouvre un livre d'entretien, Jacques Roubaud, que vous avez eu avec Jean-François Puff. Il vous pose, je trouve, une très belle question. Cette question, je vous la reposerai à mon tour et je la poserai à Jean-Paul Marcheschi lui-même. Elle est inspirée par cette formule de Bernanos que je vais relire. Un homme libre, seul, est capable de servir. Le service est par sa nature même un acte volontaire, l'hommage qu'un homme libre fait de sa liberté à ce qui lui plaît, à ce qu'il juge au-dessus de lui, à ce qu'il aime. Et il vous pose cette question, accepteriez-vous l'idée que vous avez servi, que vous servez l'art poétique ? Et je demanderai une question du même ordre, je poserai une question du même ordre à Jean-Paul Marcheschi, mais quelle réponse faites-vous ?
Je pense que la poésie et l'art poétique, malgré les menaces d'absence d'intérêt, de disparition du champ du visible qui pèse sur elle, au fond, je suis entièrement pris dans la passion de cet art et je pense et je défends l'idée qu'il devrait continuer. Et c'est donc tout à fait, je réponds très favorablement à la question que me pose Jean-François Puff. Et en effet, oui.
Il y a cette idée-là. Vous avez même cette phrase tout à fait extraordinaire, je trouve très belle et très originale pour le coup, paradoxalement originale. J'essaie de ne pas être exagérément nouveau. et donc, c'est-à-dire vous prenez en compte la tradition, vous inscrivez dans une tradition. Parce la table rase...
Oui, c'est ça, pas du tout. Pas du tout. Les catastrophes qu'a dans le siècle qui nous précède à créer l'idée de la table rase sont effrayantes. Et donc, précisément, faire toujours du nouveau, c'est un moyen d'éliminer, d'une certaine façon, la poétique. Donc moi, je le tiens... Je tiens à ce qu'il persiste.
Et vous citez les grandes écoles poétiques de la Pléiade romantique qui ont, sinon voulu faire table rase, du moins rompre. Et vous avez cette formule, ce qui serait exceptionnel, ce serait plutôt la revendication de non-rupture que la revendication de rupture. Et cette revendication de non-rupture est la vôtre.
Absolument.
Alors est-elle la vôtre aussi, Jean-Paul Marcheschi ? Vous inscrivez-vous justement dans la non-rupture, si je puis dire ? Servez-vous l'art pictural de la même manière que Roubaud sert l'art poétique?
Je dirais, la composante de la rupture reste active et reste d'ailleurs précieuse. À mon avis, je crois qu'il y a une positivité de la rupture. Mais jamais, à mes yeux, et en tout cas dans ma peinture et dans ma vie, dans la façon de dessiner, de sculpter, jamais le passé ne pèse. Ce qui pèse, au contraire, et je le regrette dans certaines œuvres contemporaines, c'est son absence. Donc, je trouverais ça épouvantable de cette liquidation des morts. Voilà, je crois qu'on est, on hérite, et que toute œuvre, d'ailleurs, jusqu'à Fautrier, enfin Picasso, Matisse, Baselitz, Twombly, enfin, toute œuvre hérite, n'est-ce pas ? Et donc, il faut... D'emblée, bien entendu, d'abord, c'est une espèce de gifle, enfin, de blessure, pour le moi, enfin, le moi contemporain en tout cas, qui croit qu'il n'est parfaitement beau, digne, comme ça. Il est livré par la naissance, dès le berceau. Il s'agit non pas de le gifler, c'est-à-dire de le contraindre, mais au contraire, de l'éduquer. Enfin, mais il s'agit au contraire de le protéger, de le laisser s'exprimer. Je ne crois pas du tout à ça. Donc ce que j'appelle le désendettement, c'est précisément ce que chaque homme a à faire, ce que bien sûr les œuvres éclairent. Par exemple, je pense aux innombrables plagiats de Proust. Donc Proust d'abord prend connaissance de ce dont il hérite. Et on hérite de beaucoup de choses. Donc, et ensuite, c'est la raison pour laquelle il faut savoir qu'on est écrit d'emblée ou on est imagé pour un peintre et écrit en même temps.
Vous dites que vous ne reniez pas la rupture, et en effet, vous commencez par une rupture très forte, puisque vous abandonnez le pinceau, et c'est sans retour. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger un peu plus, à partir justement d'une réflexion de Jacques Roubaud, une réflexion sur le vers libre. Vous dites, Jacques Roubaud, si le vers libre était réellement libre, il ne s'interdirait pas de faire de temps en temps des rimes, et de temps en temps des alexandrins. Le vrai vers libre, c'est le vers de Reverdy. Et je voudrais vous poser la question en la transposant, c'est-à-dire, est-ce que la vraie liberté pour vous, ça ne consisterait pas aussi à revenir de temps en temps au pinceau ? Est-ce que ça ne vous offrirait pas des possibilités élargies, justement ? Ou alors, quel est le sens de cette rupture et pourquoi est-elle précisément sans rupture chez vous ? Sans retour, pardon, chez vous.
Oui, enfin, je ne suis pas sûr qu'elle soit sans retour.
Pour le moment, en tout cas.
Oui, mais là, la joie de vivre, enfin, et qui est pour moi totalement liée à la joie de peindre et de sculpter, fait que je n'en vois pas la fin et je n'en désire vraiment pas la fin. Cela dit, à l'intérieur de cette espèce de discipline aberrante, mais enfin quand même aussi qui est source d'un grand plaisir pour moi, que sont les livres rouges, cette bibliothèque de peinture est nourrie. D'ailleurs, le livre consacré au faste de Nemours en témoigne. On a publié un grand nombre d'extraits de ces pages de livres rouges que je nourris de peinture, n'est-ce pas ? Là, jusqu'ici, je pense qu'il y en a 15 000 peintures que je n'ai jamais exposées, ou très peu. À Nemours, on a ouvert quelques livres liés aux préparations des faces, justement, et vous verriez que vous y avez de l'huile, de la gouache, de l'aquarelle, du fusain, de la mine noire, du pastel, de l'encre, car une de mes passions, c'est le dessin. Et d'ailleurs, dans les œuvres mêmes, les morsures de l'aube, par exemple, les figures, les déesses qui apparaissent autour du corps du dormeur, enfin, qui est un étrange dormeur emporté dans la mort, dans le lac du sommeil, sont dessinées. Vous voyez, si vous... On a d'ailleurs photographié toutes les étapes, on verrait qu'on a d'abord un dessin au fusain qui est, je dirais, tout à fait l'usage classique du dessin.
Oui, alors,
donc je n'ai pas abandonné la peinture.
Vous n'avez pas abandonné la peinture, et j'ajoute que avec le dripping de feu, avec le flambeau, vous peignez ou vous sculptez des objets figuratif. Et l'exposition de Nemours, je le dis tout de suite, est extrêmement réaliste. Et que j'ai parlé du festin, c'est vraiment, au contraire, le réalisme du festin vous empoigne d'entrée de jeu. Alors, un mot simplement avant que je ne pose une autre question à Jacques Roubaud. Comment faites-vous ces sculptures si réalistes, précisément, avec le feu ? Comment
alors voilà une contrainte.
Justement.
Alors là, donc à la contrainte.
Ces corbeaux. Oui. Ces corbeaux de feu, c'est comment ?
Exactement. Donc à la contrainte que m'impose enfin ce redoutable feu qui amuse enfin et tout de même illumine ma vie. Eh bien, j'oppose moi l'autre contrainte. C'est-à-dire, je lui impose de faire ce dont il a le plus horreur, à savoir d'entrer justement dans une sculpture totalement réaliste, enfin, là où le feu, normalement, ne voudrait que l'informe, n'est-ce pas ? Règne, ce qu'il veut, c'est le chaos cosmos. Ce qui n'est pas inintéressant, parce que ce n'est pas tout à fait l'informe. Je pense que l'informe du feu est informée des commencements du monde. Ce qui explique d'ailleurs, à l'intérieur de l'exposition, une ponctuation incessante de la Voie lactée, qui commande, au fond, tout est sur fond de ciel ou d'eau chez moi. Donc, en effet, les corbeaux, Ces corbeaux noirs, ils ne sont pas les seuls objets hein, dans cette exposition. Il y a le grand taurus, hein, qui est une espèce de figure, pour moi, affectueuse, aimante, fragile, enfin bordée de kitsch. Kitsch assumé, mais auquel, d'ailleurs, plus le kitsch menace, ou plus la figure menace, justement, de se réifier, ou de s'abêtir, ou de se simplifier, j'y impose des règles. Donc en fait, Horus, si on le retournait, on aurait des paysages infinis. Il suffit de s'approcher, de varier la distance pour voir qu'il est entièrement...
Mais on peut sculpter avec le feu ?
Oui, alors le feu, c'est une découverte qui s'est faite lentement. Donc il se produit un dépôt de cire au fur et à mesure que je peins. C'est tout ce que la peinture ne recueille pas. Et de ces pierres de cire noire roulées dans le feu, je taille à l'intérieur. Et là, on peut retailler dans l'informe inerte, abrupte du feu, ou non. Car j'aime aussi, lorsque le feu me propose ce qui serait un pur acheiropoietai, enfin, c'est-à-dire ces objets qui sont faits, qui ne sont pas faits de main d'homme. Voilà. Donc, où le feu est le seul signataire. J'aime beaucoup accueillir aussi ces formes où l'homme se retire.
Comme la Terre l'a fait dans le volcan, comme cet aspect hyper archaïque de Jean-Paul Marqueschi, c'est ça aussi, parce que certaines de ces formes sont nées de la Terre. Et donc, lui fait avec le feu, oblige le feu à imiter ce que le feu fait dans le passé. Il l'oblige, il le force.
C'est son grand archaïsme. Oui. Alors, maintenant, nous avons parlé de la rupture, de cette tradition de la rupture, cette tradition de la rupture avec la tradition, si j'ose dire. Mais l'âge contemporain nous confronte à une autre rupture. Dans l'art, justement, peut-être dans la poésie, en tout cas dans la peinture ou dans ce qui lui succède, les vidéos, les installations, l'art conceptuel, rupture avec la beauté. D'un coup, la beauté n'est pas tellement la bienvenue dans l'art. Il y a un contentieux aujourd'hui entre l'art et la beauté. Alors, comment vous situez-vous l'un et l'autre par rapport à ce problème, Jacques Roubaud ?
On n'oublie pas quelque chose de Rimbaud qui m'a toujours frappé. Un moment où, parlant d'un paysage, c'est dans un de ses derniers poèmes, tout d'un coup, il dit « C'est trop beau, trop, gardons notre silence. Bon. » Donc là, effectivement, c'est vraiment le début de la grande méfiance et rupture par rapport à la beauté. Bien sûr, moi j'en garde aussi des traces de ça. Par exemple, la beauté de Canova ne me saisit pas beaucoup, celle de Raphaël non plus. Mais en même temps, je trouve que au-delà de cette rupture avec la beauté, quand elle a été acquise, c'est-à-dire, comme d'ailleurs la rupture avec la tradition, c'est la partie nécessaire de la rupture qui est de se débarrasser des formes vieillies de la tradition, et des idées vieillies de la beauté. Et si l'on arrive à surmonter cela, alors on ne va pas s'interdire ni le travail avec la tradition, c'est-à-dire avec cette partie de la tradition qui n'est pas devenue oisive, immobile, mais au contraire en mouvement, voilà, pas oisive. Et donc, c'est pareil pour la beauté. Et il y a bien évidemment, dans cette exposition de Nemours, il y a une approche d'une manière différente de saisir la beauté qui est loin de celle vieille.
Canova, notamment.
Alors, justement.
Vous voyez, c'est ça. Si la beauté, c'est Canova, non.
Ah oui.
Alors, quelle réponse apportez-vous à cette question, vous, Jean-Paul Marqueschi ?
Alors, c'est une notion.
Comment vous situez-vous ? Par rapport...
Alors, c'est vraiment, d'abord, c'est une notion qui m'a souvent été accolée péjorativement et qui d'ailleurs va de pair avec cette autre des considérations très significatives de notre époque qui ne frappe pas, je crois, j'espère, pas trop, en tout cas je ne crois pas, l'écriture poétique ou peu, savoir qu'on m'a souvent, de manière péjorative et pas plus tard que la semaine dernière, dit qu'une des raisons peut-être de mon invisibilité dans certains lieux, parmi les professionnels, je cite la personne qui est venue me voir, c'est probablement mon accoquinage avec des écrivains, avec le littéraire, d'être un peintre littéraire. Voilà. Que je trouve d'ailleurs un objet fascinant. Parce que ça va de pair, je pense, que l'abandon de la beauté, qui en soi la beauté doit être redéfinie. Enfin, il faut la réhistoriciser. Et il y a une variation énorme des objets de la beauté. Mais je pense qu'il faut garder le mot.
Il faut garder le mot, oui.
Oui, car je crois que si on perd le mot, on perd la chose.
J'ajoute que votre titre aussi est, à l'époque actuelle, provocateur, si l'on pense à certaines expositions du Palais de Tokyo, etc. Les fastes. Donc, c'est les fastes, même si on ne pense pas à Ovid, on est dans le registre de l'éloge, dans le registre de l'admiration, alors que règne, si vous voulez, une sorte d'hypercritique et une tentation du trash. Les fastes, c'est à l'opposé du trash, et c'est le maintien, malgré tout, de la beauté, ou même, pour le dire d'un mot que vous aimez et qui va plus loin encore, de la splendeur.
Oui, la splendeur, c'est un mot d'ailleurs qui est quelque chose qui pourrait, par exemple, on veut savoir quelle est l'idée que Pontormo se faisait de la beauté. Voilà, un artiste pour moi qui d'ailleurs est très, très, attire énormément, je dirais, les avant-gardistes de. Car il est vraiment quelqu'un qui, du point de vue de la forme, a renversé absolument toutes les formes. C'est peut-être un des plus grands inventeurs, tout un bouleversement. De l'expression de la puissance chromatique, avec un décollement vis-à-vis du naturalisme, enfin. Mais il n'y a pas que ça. Donc, par exemple, le Pontormo, ce peintre incroyablement retiré, enfin mystérieux, très, très mélancolique, lorsqu'il tente de définir l'énigme vers lequel sa peinture nous entraîne, une peinture d'ailleurs qui traverse des deuils successifs, qui est riche du point de vue des significations, ce n'est pas simplement un jeu de la forme. Et dit, là, cette phrase très belle et vraiment mystérieuse, il dit « Come dire splendore ?» Comment dire les splendeurs du monde. Et en effet, face à un certain type d'art qui est assez dominant, où la pulsion critique, enfin, sociologique, etc., est extrêmement active, ou l'ironie, chose que je déteste en art, par exemple, et à cette pulsion critique, je préfère l'oblation. Voilà. Je crois que la peinture que j'aime est oblative. Elle est dans l'adoration perpétuelle.
Est-ce que c'est aussi une définition possible de la poésie ou une des modalités possibles de la poésie?
Certainement.
Dire la splendeur.
Oui, certainement.
Ça, vous diriez aussi. Vous oui, reprendriez.
Tout à fait. Et je partage l'enthousiasme de Jean-Paul Marqueschi pour Pontormo.
Bon, mais c'est très bien. Enthousiasme que je partage avec vous. Merci beaucoup. Alors, Jean-Paul Marqueschi, je voudrais que vous nous disiez un mot de votre autre exposition. Celle-ci, Les Fastes, a lieu donc à Nemours, ce très beau musée de la préhistoire de la ville de Nemours. Mais il y en a une autre qui vient d'ouvrir également, Mondo Chiaro, au château du Grand Jardin de Joinville. Alors, de quoi s'agit-il? Là encore, la référence est littéraire.
Alors, oui, elle est totalement littéraire. Là, c'est à la demande du conservateur, puisque c'est un centre culturel de rencontre, c'est un lieu de toute beauté. C'est probablement un des lieux les plus beaux qu'on n'ait jamais offert en tout cas à mes peintures. Il s'agit donc de salles immenses, splendides. C'est un petit château renaissance de toute beauté. Et le thème de l'année pour ce centre culturel de rencontre, c'est les chroniques du sacré. Et on m'a demandé de réunir tout ce que j'avais peint, et d'ailleurs il y a un grand lac aussi, autour de Dante.
Mondo Chiaro, c'est une expression de Dante.
Oui, c'est, je crois, l'avant-dernier vers, ou avant-avant-dernier vers de l'enfer. Hein, rejoindre le monde clair. Voilà l'oblation.
Voilà l'oblation. Merci beaucoup Jean-Paul Marqueschi, merci Jacques Roubois. Alors je rappelle d'abord le titre de votre catalogue, non, de votre livre commun, Les Fastes, Jean-Paul Marqueschi, Jacques Roubois. C'est un superbe livre publié aux éditions Liénard. Et Jacques Roubois, j'ai cité votre entretien très éclairant, votre rencontre donc avec Jean-François Puff aux éditions Argol. La semaine prochaine, nous ne quitterons pas l'art, nous ne quitterons pas la poésie. L'émission aura pour titre et sujet « L'anneau et le livre » de Robert Browning. Mes invités seront Diane de Margerie et Marc Poré. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Claire Poinsignon et Didier Lagarde, à la technique Bernard Lagnel. Dans un instant, Jean-Noël Jeannonet.